le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons en ce dimanche de Pentecôte le pasteur Samuel Duval de la FEB, la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. À l'Ascension, les disciples de Jésus prennent conscience qu'ils sont seuls. Ils s'interrogent et se sentent abandonnés. Ils ont peur. Ils attendent un signe pour agir. À la Pentecôte, l'Esprit Saint offre à tous ceux qui l'attendent le don des langues. Ils peuvent alors parler la langue de chacun pour annoncer à tous la bonne nouvelle. Ils passent de la peur à la grâce. Le pasteur Samuel Duval nous fait voyager à travers l'histoire de la Pentecôte, un récit dans lequel les disciples commencent à accomplir le dernier ordre du Christ. Allez et faites de toutes les nations des disciples.
Bonjour à tous. Nos contemporains retiennent surtout que ce dimanche de Pentecôte est suivi d'un jour férié, plus ou moins chômé, selon les secteurs. Pour la communauté juive, il s'agit de la fête des moissons ou des semaines, 50 jours après Pâques. Et le nom de Pentecôte vient de ce chiffre, de 50. Et pour les chrétiens, on parle souvent de cette fête comme celle de l'Esprit. Et je vous propose de revisiter ce texte de la Pentecôte, ainsi que d'autres textes bibliques faisant écho à ce récit, afin de mieux saisir cette œuvre, parfois insaisissable. Voici quelques éléments de contexte de cette histoire de Pentecôte, telle que le livre des Actes des Apôtres nous la raconte. Jésus, après sa résurrection, après Pâques, reste 40 jours avec ses disciples, puis il monte au ciel. C'est ce que nous avons célébré la semaine dernière avec l'Ascension. Que font alors les disciples et toutes les personnes qui avaient suivi Jésus? Ils s'enferment tous, hommes et femmes, dans une grande pièce située en hauteur. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 relate ainsi que l'événement qui précède Pentecôte, ce sont les disciples qui se sont enfermés car ils ont peur. Ils choisissent de rester entre eux, dans cette maison cloîtrée. Jésus est monté au ciel, il les a laissés, et ce qu'ils ressentent, c'est de la peur face au silence, face à son absence. Ils font alors le choix, pour se rassurer, de désigner parmi eux une personne pour succéder à Judas, qui avait trahi Jésus. Et voilà ce que Pierre déclare. Nous écoutons ce récit dans le livre des Actes.
Judas était l'un d'entre nous, et il avait reçu sa part de notre service. Or voici ce qu'il est écrit, qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Il doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il nous a été enlevé. On proposa alors deux hommes. Joseph, appelé Barsabas, surnommé aussi Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour remplir ce service d'apôtre et occuper la place que Judas a quittée pour aller à celle qu'il a choisie. » Ils tirèrent au sort, et le sort désigna Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres.
Ils tirèrent au sort. Vous voyez le paradoxe de ce passage? Pendant 40 jours, Jésus est avec ses disciples, il les enseigne, il mange avec eux, et pas une fois Jésus ne leur parle de remplacer Judas. Si cela avait été sa volonté, s'il avait estimé important que Judas soit remplacé pour retrouver un nombre de 12 disciples, n'aurait-il pas lui-même désigné un successeur, un 12e homme? Non. Il a même plutôt élargi le cercle des croyants en choisissant comme premier témoin de la résurrection des femmes. Femmes à nouveau présentes dans la chambre haute. Or, les disciples se croient privilégiés car ils ont suivi Jésus pendant ses années de ministère. Et donc, en son absence, pour se rassurer, ils cherchent à reproduire ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont déjà vécu, et ils vont choisir un 12e homme qui aurait vécu la même chose qu'eux. Ils vont justifier que ce choix vient de l'Esprit. et on livrera le choix final au fruit du hasard. Il nous arrive aussi d'avoir peur. Peur, par exemple, de l'avenir, de ne pas faire le bon choix, peur face à une absence. Imaginez qu'alors, pour se rassurer, on répète mécaniquement seulement ce qui s'est toujours fait, parce que c'est toujours comme cela que ça s'est fait. Ou alors imaginez que pour nos choix personnels, pour choisir son conjoint, pour élire nos représentants, pour nous rassurer face à nos peurs, on tire au dé, qu'on laisse au hasard le choix. D'ailleurs, on ne réentendra plus jamais parler de Matthias, celui que le sort désigne, ni dans les textes bibliques, ni dans la tradition chrétienne, si ce n'est Clément d'Alexandrie qui raconte que Matthias aurait quitté l'orthodoxie de la foi pour fonder sa propre communauté. Voilà quel est le contexte qui précède Pentecôte. Écoutons maintenant ce qui se passe juste après cette élection. Écoutons ce qui se passe et comment l'Esprit va défaire leur plan et intervenir d'une autre manière.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues, pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer.
L'Esprit Saint ne descend pas sur les 12, ni sur les 11 pour invalider ou confirmer leur choix de Matthias. Mais il descend sur tous ceux et celles présents qui étaient réunis dans cette pièce. Et c'est tous ensemble aussi qu'ils vont partir dans les rues annoncer la bonne nouvelle. La première action de Pentecôte, c'est la réponse à la peur, à l'entre-soi dans lequel nous essayons d'exister par nos traditions, par ce qui nous rassure. Et ce, afin de nous faire sortir annoncer une bonne nouvelle vers d'autres qui sont si différents. Remarquez que la réponse est à la fois collective, cela se passe en même temps pour tous, mais aussi une réponse personnelle, comme le montrent les langues de feu posées sur chacun.
Vous êtes sur France Culture, à l'écoute du service protestant, de la peur à la grâce. C'est le thème de la méditation du pasteur baptiste Samuel Duval.
À la Pentecôte, l'Esprit vient nous libérer de nos peurs. Ce n'est pas la première fois que Dieu agit de la sorte. Voyageons dans les récits de l'Ancien Testament afin de voir comment Dieu intervient dans les situations semblables. Ce qui nourrira notre compréhension de Pentecôte, tant pour les premiers croyants, que pour nous aujourd'hui. Ces trois textes sont le récit de Babel, le récit de la création et le don de la loi au Sinaï. Dans chacun de ces récits, on retrouve les mêmes éléments que dans le texte de la Pentecôte, les mêmes ingrédients. Une question fondamentale en lien avec l'identité, qui suis-je ? Une intervention de Dieu, un effet sur la parole qui débouche sur une action. Le premier récit est celui qui est souvent vu en parallèle à la Pentecôte. Depuis les pères de l'Église, on aime comparer ce texte avec celui de Babel. Nous l'écoutons dans le livre de la Genèse.
Puis ils se dirent « Au travail pour bâtir une ville, avec une tour dont le sommet touche les cieux. Ainsi nous rendrons notre nom célèbre et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit des cieux pour voir la ville et la tour que les êtres humains bâtissaient. Après quoi il se dit « Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons, embrouillons leur langage et qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Le Seigneur les dispersa de là sur l'ensemble de la terre. Et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là, en effet, que le Seigneur a embrouillé le langage des hommes. et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière.
Au départ, il y a là aussi une question d'identité et une question de peur. Le déluge vient de se produire. Dieu a promis qu'il n'y en aurait plus, mais les habitants de la terre, au lieu de se disperser, se rassemblent pour trouver ensemble comment calmer cette peur. Leur but est double. Se faire un nom, au lieu de recevoir celui que Dieu leur a donné. Le nom représentant l'identité dans la Bible. Ils refusent d'accepter qu'il y ait quelqu'un qui les précède, qui leur donne une identité. Ils veulent la trouver en eux-mêmes, dans le refus de l'autre, le tout autre, le créateur ou l'autre, le prochain. Ils veulent aussi éviter la dispersion. Ils ont à la fois peur d'être répandus, comme pendant le déluge où l'eau s'est répandue, et ils ont peur de la diversité. Ils ont peur d'être inondés dans la diversité. On voit dans le texte de la Genèse qu'ils se rassemblent pour se ressembler. Ils utilisent la même langue, pire, les mêmes discours, le même contenu. Ils choisissent le « nous » au détriment du « je ». Dieu va intervenir. Il avait donné dès la création aux êtres humains le cadeau de la différence, d'être chacun unique. Mais Babel montre que les humains n'ont pas reçu la diversité comme une bénédiction et tentent de se construire un « nous » fort. Le résultat de leur totalitarisme, nous dit le texte, c'est que tout leur est possible. Rien ne leur sera inaccessible au prix du sacrifice des individus. Si Dieu intervient, c'est pour réintroduire de l'altérité, pour qu'ils ne sacrifient pas leur individualité. Dieu les aide à quitter le nous fusionnel pour se construire chacun. L'intervention de Dieu n'est pas tant une punition, Dieu ne détruit pas la tour, mais une intervention de protection envers les hommes contre eux-mêmes. Dieu vient arrêter le processus de décréation que l'homme avait enclenché, l'entre-soi. Que fait Dieu? Il accentue leurs différences. Il les disperse. Il brouille leur langue. Eux qui refusent l'arc-en-ciel, symbole de diversité pour édifier une tour, symbole d'uniformité, doivent redécouvrir la beauté de chaque couleur, de chaque langue, de chaque personnalité. Eux qui se rassemblent pour se ressembler, Dieu les disperse, il les renvoie à leur diversité. Il leur offre une nouvelle chance. L'unité véritable, l'identité authentique passe par la diversité. Dieu, à Babel, vient réintroduire la diversité, élément fondateur pour la construction identitaire, tant individuellement que collectivement. Babel est en quelque sorte le dernier acte de la création de la Genèse, avec la diversité comme moyen conçu par Dieu pour l'épanouissement de l'être humain. Quel éclairage ce texte nous donne de la Pentecôte ? Regardez comment à la Pentecôte, les premiers croyants, tentés de se replier sur un nous fusionnel dans leur chambre haute, reçoivent de l'Esprit une force leur permettant d'accueillir leur diversité. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, de toute nationalité. L'Esprit ne fait pas qu'ils se mettent tous à parler une seule et même langue uniforme, mais le texte dit « Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait à chacun d'exprimer. » Et plus loin, nous les entendons chacun parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. L'intervention de Dieu vient les sauver de l'entre-soi, de la peur de l'autre, et les pousse à accueillir la diversité. À la Pentecôte, l'Esprit vient nous libérer de nos peurs, nous libérer de l'entre-soi. Un autre texte éclairant celui de la Pentecôte est le récit de la création. Quand on nous parle de l'Esprit à la Pentecôte, le grec dit littéralement qu'un bruit vint du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. Or, le mot grec pour souffle est rarement employé, mais sa première utilisation se trouve dans la Genèse, quand Dieu insuffle son souffle de vie dans l'être humain. Écoutons ces récits dans le livre de la Genèse.
Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, à l'Orient, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et femme. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »
L'emploi de ce mot rare crée un pont entre ces deux textes. À nouveau, il y a au départ une question d'identité. À qui l'être humain que Dieu est en train de créer va-t-il ressembler? En quoi est-il différent par rapport aux plantes, par rapport aux animaux? Et justement, Dieu opère une intervention unique dans toute la création. Il insuffle son souffle de vie à l'être humain, alors qu'il n'agit pas ainsi pour les plantes ou les animaux. Et la conséquence de cette intervention, c'est de permettre à l'être humain, homme et femme, d'accomplir leur vocation sur cette terre. Dieu leur confie de protéger cette terre, de la dominer, de la cultiver, d'en savourer les fruits. On retrouve une action semblable à la Pentecôte. En utilisant le même terme que dans la Genèse, le don de l'Esprit est comparé à Dieu qui donne aux croyants son souffle de vie. Dans la Genèse, ce souffle fait la différence entre un corps animal créé le même jour que l'être humain et cet humain. Ce souffle lui permet de trouver sa place sur cette terre en relation avec ce qui est créé. De même, l'intervention de Dieu à Pentecôte, avec ce souffle de vie que Dieu donne aux croyants dans la chambre haute, leur permet de trouver leur vocation, les encourage à accomplir leur vocation sur cette terre, non seulement celle de la Genèse, mais aussi celle renouvelée de devenir ses témoins, d'être porteurs d'une bonne nouvelle de Dieu pour ce monde. Le fruit de cette Pentecôte va être la rencontre avec la foule de Jérusalem et la conversion de 3000 auditeurs. Le souffle de vie donné par Dieu à la Pentecôte permet à chacun de sortir en ce monde et de porter une parole, le Christ.
Vous écoutez le service protestant sur France Culture, de la peur à la grâce. C'est le thème de la méditation du pasteur baptiste Samuel Duval.
À Pentecôte, l'Esprit vient nous libérer de nos peurs, de l'entre-soi. Il réveille notre vocation. Le dernier texte pour mieux comprendre Pentecôte est celui du don de la loi. Dans la tradition juive, Pentecôte a longtemps été une fête pour remercier le Dieu créateur pour les récoltes, une fête de la moisson se déroulant 50 jours après la coupe des premiers épis. Plus tard, sans qu'on puisse dater précisément, mais sans doute au 1er ou 2e siècle de notre ère, Pentecôte est aussi devenue, pour la communauté juive, la fête du don de la loi, de l'alliance conclue. C'est la célébration de la loi donnée par Dieu au mont Sinaï. Nous l'écoutons dans le livre de l'Exode.
Le Sinaï était tout fumant, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La nuée s'élevait comme celle d'une fournaise, et toute la montagne tremblait. Le son de la trompette devint de plus en plus puissant. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit au sommet du Sinaï, d'où il appela Moïse. Et Moïse y monta.
En quoi ce texte d'Exode 19 éclaire la Pentecôte des Actes des Apôtres? Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec la traversée de la mer. C'est la Pâque juive. Et tous les gens se retrouvent dans le désert. Il y a là, à nouveau, une question d'identité. D'abord, parce que cette assemblée est très hétéroclite. composée à la fois d'Hébreux de toute génération, d'autres esclaves, mais aussi d'Égyptiens qui les ont suivis. Et puis, parce qu'ils ont été esclaves pendant des siècles à obéir sans liberté ou initiative personnelle ou collective. Qui sont-ils? Qui est ce peuple? Dieu va intervenir pour donner une parole qui va les aider à se construire, à quitter l'esclavage pour devenir vraiment libres. On imagine souvent Moïse seul face à Dieu sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, les 10 paroles. Mais c'est au peuple entier que Dieu s'adresse depuis la montagne toute fumante, avec des éclairs et du tonnerre. Ce n'est qu'ensuite que Moïse monte au Sinaï pendant 40 jours pour recevoir d'autres instructions et les tables de pierre et les 10 commandements. À nouveau, la parole du Seigneur aide à la construction de l'identité et débouche sur une action. Une alliance est conclue entre Dieu et son peuple. Israël s'engage à suivre le Seigneur. L'intervention de Dieu permet d'être en relation avec lui, tout en s'en construisant comme un être libre. De même, à la Pentecôte, l'Esprit permet d'accueillir la présence de Dieu en chacun. Ceux qui ont suivi Jésus se sentent orphelins, mais désormais, Dieu Emmanuel est avec eux, en eux. Ils sont, comme le résumera Paul, le temple du Saint-Esprit. Et ces 2 textes de la loi en Exode et du don de l'Esprit dans les Actes sont reliés par un autre élément, le chiffre 3000. Alors que Dieu s'entretient avec Moïse sur le mont Sinaï pour lui donner toute une série de commandements, notamment sur la fabrication d'une tente de la rencontre, pour créer un lieu où Dieu pourra rencontrer son peuple, le peuple s'impatiente et c'est l'épisode du veau d'or, où les Israélites se fabriquent un Dieu pour qu'il les conduise. Quand Moïse descend du Sinaï, il va punir 3000 Israélites en les faisant mourir. À Pentecôte, plus besoin de tente de la rencontre. Dieu lui-même vient habiter en chacun des croyants par l'Esprit et les conduire. Écoutons ce que dit Pierre dans le livre des Actes.
Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Et il disait « Acceptez le salut, pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants.
Ces 3000 personnes qui croient le jour de Pentecôte et sont baptisées sont un écho à ces 3000 qui avaient péri pour ne pas avoir cru. Désormais, pour les croyants, c'est le temps de l'Esprit qui s'inaugure par un geste de bénédiction. La conversion de ces 3000 dans cette foule, un signe de vie, de salut pour le peuple. On passe de la mort face à la loi au salut par la grâce. À la Pentecôte, l'Esprit vient nous libérer de nos peurs. À Babel, comme à Pentecôte, l'intervention de Dieu vient sauver les êtres humains de l'entre-soi, de la peur de l'autre, et les pousse à accueillir la diversité. À la création, comme à Pentecôte, le souffle de vie donné par Dieu permet à chacun d'assumer sa vocation et de sortir en ce monde afin de porter une parole, le Christ. Lors du don de la loi au Sinaï, comme à Pentecôte, Dieu vient habiter parmi son peuple et chacun peut recevoir l'assurance de sa présence. À plusieurs reprises, dans les Actes des Apôtres, lorsque les premiers chrétiens sont tentés de rester dans un entre-soi sans vouloir la diversité, lorsque des personnes ont besoin d'être encouragées dans leur vocation ou lorsqu'elles ont besoin d'être assurées de la présence divine, l'Esprit va intervenir. À chaque fois que cela se produit, il y a une intervention de l'Esprit du type de la Pentecôte. Ainsi, lorsque Pierre est confronté à Corneille, un centurion romain, alors qu'il hésite à partager l'Évangile avec ce païen, cet envahisseur, cet étranger, cet homme si différent de lui. L'Esprit intervient et vient bouleverser la compréhension de Pierre. Le salut n'est pas que pour les Juifs, mais la grâce est pour tous. Pierre doit revoir sa conception de ce qui appartient au Christ. Qui appartient à Dieu ? L'Esprit Saint intervient, comme à la Pentecôte, pour que Pierre et avec lui les premiers croyants reconnaissent ces autres comme des frères et des sœurs en Christ. La même histoire va se reproduire lorsque les premiers chrétiens sont confrontés à des Samaritains qui eux aussi reçoivent l'Esprit, puis rebelotent avec les disciples de Jean. À chaque fois que les premiers chrétiens commencent à vouloir définir qui peut appartenir ou pas à la grâce et à Jésus-Christ, il y a intervention de l'Esprit, nouvelle Pentecôte pour les faire sortir de leur représentation, pour les amener à devenir avec les autres témoins du Christ. Ce jour de Pentecôte est une promesse que Dieu adresse à chacun, chacune d'entre nous. Comme à Babel et à Pentecôte, il veut intervenir face à nos peurs pour nous pousser à dépasser notre entre-soi, nos représentations figées. Comme à la création et à Pentecôte, nous accueillons le souffle de vie de Dieu qui nous permet d'assumer notre vocation. Comme au Mont Sinaï et à Pentecôte, Dieu ne nous laisse pas orphelins, mais vient demeurer en nous. En ce jour de Pentecôte, nous accueillons l'Esprit pour que, ensemble avec d'autres, nous soyons porteurs d'une bonne nouvelle qui, au lieu d'exclure, va vers l'autre. Une bonne nouvelle qui porte le nom de Jésus-Christ.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. De la peur à la grâce, c'était le thème de la méditation de Samuel Duval. Il est pasteur à la FEB, la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. Un grand merci à vous pour votre écoute, à la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Julien Doumenc. Lecture Thierry Casazian. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation et télécharger le texte, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Dès 9h, vous retrouvez la rédaction de France Culture pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.